Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin.
7h47, votre invité ce matin, Jérôme Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France.
Bonjour Frédéric Valtou.
Bonjour.
La grève dans les urgences entre dans son sixième mois, c'est du jamais vu. Un service sur trois est touché par cette mobilisation et on s'attend à un afflux encore plus important de patients demain, 15 août. On entendait un reportage à 7h30 à Saint-Brieuc, des médecins et des lits en moins, comme tous les étés. On saura faire face demain?
Bah, on saura faire face, mais on saura faire face sans doute avec des temps d'attente dans certains endroits qui vont s'étirer. On saura faire face peut-être avec une sollicitation encore plus forte des médecins et de l'ensemble des agents dans les services d'urgence. Mais à l'arrivée, on saura faire face. Mais c'est vrai qu'on le sait depuis des années. Hein, année après année, les tensions sont de plus en plus fortes à l'hôpital. Les conditions de la prise en charge des patients se tendent aussi. Je ne vais pas dire qu'elles se dégradent, parce qu'à l'arrivée, tout le monde est pris en charge. Mmh. Mais en tout cas, elles se tendent et ça n'est pas, j'allais dire, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas une surprise. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une surprise.
Cette grève d'une ampleur inédite, on l'a dit, a démarré mi-mars après l'agression d'un soignant à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'est une grève particulière puisqu'elle ne se voit pas.
Bah, c'est une grève particulière parce que dans le service public, effectivement, on continue à faire son travail, on continue à soigner, on continue à prendre en charge et effectivement, on ne baisse pas la grille, on ne baisse pas le rideau des services d'urgence.
C'est un handicap quand on veut porter un message de revendication?
Non, c'est un handicap parce que je pense que les Français, d'abord, qui vont aux urgences le savent, le voient, qu'on parle quand même de cette grève aux urgences et à travers la grève aux urgences, on parle de l'hôpital, on parle du système de santé puisque finalement, il faut quand même voir une chose, ce qui se passe aux urgences, c'est pas la crise de l'hôpital, c'est la crise du système de santé. Si les services d'urgence sont autant sollicités, parce qu'on a un service de santé, on a un système de santé qui est malade. On a une médecine de ville qui est très fragile, qui aujourd'hui vit une crise sans précédent. Et donc forcément, quand on cherche un médecin, on va là où la lumière est allumée, et elle est allumée à l'hôpital.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Exactement, elle est allumée à l'hôpital en permanence.
Le gouvernement, Frédéric Valtou, a débloqué 70 millions au début de l'été. À quoi a servi cet argent, ces 170 millions d'euros?
Pour moi, peut-être pas à grand-chose, c'était pas le sujet. Enfin, vous voyez, on voit bien que dans les revendications qui sont évidemment celles des urgentismes au-delà de l'ensemble des hospitaliers, c'est pas qu'un problème de moyens, bien sûr qu'il y a un problème de moyens, mais d'abord c'est pas qu'un problème de rémunération, c'est un problème de considération vis-à-vis de ce qu'est l'hôpital, de ce qu'est le rôle des soignants aujourd'hui, quelle est la place aujourd'hui de l'hôpital dans un système de santé, je le dis, en crise. C'est tout ça aujourd'hui qui marche pas. Alors Agnès Buzyn, quand elle est arrivée, a posé un constat qui était tout à fait juste sur effectivement la crise profonde du système de santé, dont les crispations à l'hôpital sont le révélateur. Hein. Mmh. Mais derrière, voilà, il faut maintenant passer du constat au remède. Le remède, ça a été une réforme voulue par Emmanuel Macron qu'il a annoncée au mois de septembre, qui est volontariste, qui pour moi pose des propositions qui sont tout à fait justes et appropriées. Ce que je vois simplement, c'est que dans la mise en œuvre, c'est fait de manière un peu molle, un peu émolliante, et que on cède un peu le pas. On va pas vers l'audace, on va pas vers les grandes réformes qui pourtant étaient annoncées par le président de la République.
Revenons rapidement sur le constat avant de parler des solutions. Il faut rappeler à nos auditeurs que la fréquentation des urgences a doublé en 20 ans.
C'est le seul service
public.
Mais
pas les effectifs.
C'est le seul service public.
Pas les effectifs.
Oui, pas les effectifs, mais c'est le seul service public qui connaît ça. On est passé de 10 millions de passages par an à plus de 20 millions. Ça augmente de 400 000 passages par an. Je veux dire, c'est inflationniste.
Mais pourquoi? Mais pourquoi les effectifs n'ont pas augmenté?
Alors les effectifs, ils ont malgré tout quand même augmenté aux urgences, mais c'est vrai que faut quand même voir une chose, c'est que dans notre système de santé, l'hôpital, c'est pas normalement le lieu du premier recours. C'est le moment de la prise en charge aiguë de la maladie, c'est-à-dire que normalement, on rentre dans le système de santé par le médecin généraliste qui ensuite, soit vous prend directement en charge ou soigne, soit vous donne les médicaments, soit vous oriente, si c'est plus grave, vers un hôpital. Et aujourd'hui, le système ne marche plus. On a perdu 6000 généralistes ces 5 dernières années. Et le problème, c'est que la situation qu'on connaît, elle va être encore pire demain, puisque on sait que là où on en a perdu 6000 ces 10 dernières années, on va en perdre dans les 5 prochaines années 6000 à nouveau. Et donc, c'est mécanique. La démographie médicale, on la connaît, on peut la prévoir. On met 10 ans à former un médecin, entre 10 et 15 ans, et donc on sait quelle est la courbe des effectifs dans les années qui viennent. Là, je veux dire, on n'est pas au cœur de la crise. La crise, elle va être encore plus forte. La crise de l'accès aux soins, elle va être encore plus forte dans les 5 prochaines années.
Les métiers de santé ne donnent plus envie ?
Ben, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a j'ai resserré la vis sur la formation. Là, le gouvernement vient effectivement de faire sauter le numerus clausus, donc on va former plus de médecins, mais on verra les effets dans quelques années. On avait déjà remonté les effectifs depuis quelques années, donc on sait qu'à partir de 2025, entre 2025 et 2030, il y a plus de médecins qui vont arriver. Encore faut-il qu'ils aient envie d'aller soigner, parce qu'effectivement, les tensions sont telles qu'aujourd'hui, un médecin généraliste qui s'installe dans un désert médical, c'est l'assurance qui peut bosser à l'infini de 7h30 du matin jusqu'à 23h.
Mais ça, c'est votre discours, c'est celui du gouvernement. En quelque sorte, c'est dire on réforme la médecine de ville pour désengorger l'hôpital. C'est le plan santé d'Agnès Buzyn. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ?
Eh ben, en attendant,
aujourd'hui, en 2019,
en 2020. En attendant, très vite, effectivement, il faut absolument mettre tout le monde autour de la table. C'est moi ce que j'avais demandé au printemps, parce qu'on pressentait la crise de l'été. Et donc, j'avais demandé au printemps, est-ce qu'effectivement, on mette l'ensemble des acteurs médicaux autour de la table, mais aussi les publics, mais aussi les libéraux, pour voir comment on assure ce qu'on appelle la permanence des soins. Comment, territoire par territoire, on assure qu'il y ait bien toujours des cabinets de ville ouverts. On organise, je veux dire, aussi les vacances, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, une permanence entre médecins pour que les cabinets de ville soient en permanence ouverts pour venir soulager les urgences. Enfin, c'est quand même, on marche sur la tête dans ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui, on réglemente les vacances des boulangers de manière à ce que dans tous les territoires de France, on ait toujours un boulanger ouvert. On n'est pas capable de le faire avec les médecins. On n'est pas capable de réguler. On ne dit pas qu'il ne faut pas que les médecins prennent des vacances, bien sûr, il ne faut pas qu'ils récupèrent les choses, et je ne dis pas ça. Mais simplement qu'on s'organise, qu'on veille à ce que, bah, dans une ville moyenne, les quatre cabinets ne ferment pas en même temps, parce qu'entre le 20 juillet et le 20 août, tout le monde prend ses vacances. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des choses simples qui ne sont pas des choses, je veux dire, qui demandent des lois, qui demandent des budgets et qui pourraient être mises en place tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'attaque vraiment au mot du système de santé. Il y a 30% de nos dépenses de santé qui sont des dépenses inutiles. On le dit, on le répète, on le démontre dans des rapports. C'est-à-dire, c'est des examens qui sont redondants, c'est des actes qu'on fait alors que réellement, on n'en a peut-être pas besoin. Alors, évidemment, on ne va pas d'un coup de baguette magique, tout d'un coup, libérer 30% de dépenses pour pouvoir les réinvestir ailleurs. Mais progressivement, peut-être en régulant mieux les dépenses de santé, mais ça c'est le rôle de l'assurance maladie, on pourrait réorienter finalement ces budgets qui existent. La France dépense 200 milliards d'euros par an pour faire tourner son système de santé. Dedans, il y a 30% de dépenses inutiles. Bon, réorientons progressivement pour mieux payer les personnels à l'hôpital, pour mieux payer la consultation du généraliste, pour investir, parce qu'on sous-investit aujourd'hui depuis quelques années à l'hôpital et on renouvelle moins le matériel, etc. Et là aussi, finalement, on affaiblit notre système. Bref, il faut simplement mieux réguler. Le président de la République, en septembre 2018, lorsqu'il a lancé sa réforme de la santé, avait dit qu'il ferait de cet objectif, de lutte contre les dépenses inutiles un marqueur. Aujourd'hui, concrètement, il ne se passe rien au ministère de la Santé de ce point de vue-là. Il ne se passe rien. Et à l'assurance maladie non plus.
Frédéric Valtou, à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, l'équipe médicale, on l'entendait tout à l'heure dans un journal sur notre antenne, demande la création d'une zone de santé prioritaire, sur le modèle des zones d'éducation prioritaire pour les écoles. Elle affirme, cette équipe médicale, qu'elle n'a même plus les moyens de payer les fournisseurs de médicaments. Vous avez été alerté de leur situation ?
Oui, bien sûr, on a été alerté, mais comme aussi le vivent les hôpitaux d'outre-mer. Moi, j'étais il y a quelques mois à Pointe-à-Pitre, l'hôpital, le CHU de Pointe-à-Pitre, aujourd'hui a des difficultés à se faire livrer par des laboratoires sur certains médicaments, parce que ils ont des difficultés de paiement et comme l'État ne les paye pas, ne les aide pas plus que ça, eh bien aujourd'hui ils sont parfois en rupture de stock, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bien soigner parce qu'il manque de matériel.
Et pourtant, cet hôpital a reçu de l'argent de l'ARS, l'autorité l'Agence régionale de santé, qui explique que l'établissement a bénéficié de 30 millions d'euros d'aide, ce qui en fait l'établissement le plus aidé de la région Île-de-France.
Oui, non, mais de toute façon, on arrive à un système, on arrive en bout de souffle. Notre système, aujourd'hui, il est à l'épuisement. Même le modèle de financement. Depuis le début du quinquennat de François Mitterrand, on parle de la réforme du modèle de financement de l'hôpital. Ça n'a jamais été fait, ni par personne. Et donc, depuis des années, on se repasse la patate chaude, on sait qu'on a un système de financement qui n'est plus approprié, on sait qu'il faut revoir tout ça, simplement ça suffit, il faut passer des constats aux actes et de manière urgente, parce que ce qui est en train de se jouer, c'est effectivement l'affaiblissement durable d'un système de santé auquel tiennent les Français, C'est-à-dire que quand on demande aux Français quel est le service public auquel ils sont attachés, ils disent c'est l'hôpital, c'est la santé. Mmh. Or, c'est une politique qui doit être majeure. Le président de la République, le Premier ministre ont fait des discours sur le sujet en mettant la barre des réformes, enfin, la souhaitée et attendue très haute. Aujourd'hui, on voit qu'il y a dans les services administratifs, à l'assurance maladie, beaucoup moins de volontarisme qu'il devrait y en avoir.
Un tout dernier mot de politique, cette fois, Frédéric Valletoux, puisque vous êtes maire de Fontainebleau. Vous avez longtemps été à l'UMP, vous êtes aujourd'hui Agir, c'est la droite Macron compatible. Comment vous jugez aujourd'hui la crise que traversent les Républicains? Vous pensez que le parti va rebondir?
Je pense qu'elle est durable et on voit d'ailleurs que les candidats à la présidence des Républicains sont des candidats qui tournent le dos à la volonté de fédérer largement les élus ou les militants ou les électeurs de droite et du centre, qui tournent le dos à l'idée de primaire, qui se rétractent sur le même corpus idéologique assez étroit, qui ont la même vision conservatrice de ce que doit être la société française.
Qui sont rabougris, c'est ce que vous dites.
Oui, enfin voilà, donc ils parlent à un segment qui était un tout petit bout de ce qu'a été l'UMP à l'époque où l'UMP était un parti très large.
Merci beaucoup Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité.